Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de débuter la semaine en votre compagnie dans Radio Foot. Évidemment, si vous êtes supporter de Manchester City, la suite ne va pas vraiment vous plaire. Nous allons revenir sur la nouvelle déroute des Sky Blues à Londres sur le terrain d'Arsenal 5-1. C'est une saison en enfer pour les Citizens. Si même Arsenal, autrefois rival impuissant, s'y met. Retour sur le résultat choc du week-end, donc dans un instant avec notre spécialiste Première Ligue qui s'y connaît en rouste, non pas administré mais plutôt reçu, Salim Bongali. Bonjour Salim.
Vous parlez pas de West Ham là, bonjour Hugo.
Je parle complètement de West Ham.
Ouais, j'ai bien compris. Ouais.
Le mauvais esprit pour entamer la semaine, il n'y a rien de mieux. Retour aussi sur le succès de Marseille contre Lyon ce week-end. Marc Libra est-il dans une forme olympique? Bonjour Marc.
Oui, tout va bien, ça se passe bien, toujours deuxième, écoutez, on s'accroche.
Et puis, retour sur une année record, en 2024, pas loin de 80 000 transferts ont été réalisés et plus de 8 milliards de dollars ont été dépensés pour les réaliser, justement, ces transferts. C'est le résultat d'un rapport de la FIFA capable d'effrayer n'importe quel romantique, adepte du beau jeu, capable d'effrayer même jusqu'à l'imperturbable Naïm Moniol. Bonjour Naïm.
Salut Hugo, salut à tous. Moi, j'ai pas pris un centime là-dessus, hein, par contre.
Ça se voit. Pierre Guérin, la réalisation, le maestro.
Tu commences ?
Pierre Guérin à la préparation de l'émission, pardon, le maestro Salerno à la réalisation, Laurent de son prénom, Radio Foot. C'est parti sur la radio.
Pour Arsenal. Arsenal a dévoré le City de Guardiola.
Les coupes de Manchester City et des musiciens d'Oasis, les plus fervents supporters du club mancunien, se croisent hein, puisqu'à la fin des années 2000, Oasis s'aborde tandis que City décolle avec des millions. Je parle d'argent venu du golf. En 2025, c'est Oasis qui est en pleine renaissance, tandis que Manchester City semble revenu à l'époque bénie des Benarbia, Ousmane Dabo, David Sommeil, Antoine Sibierski. À cette époque, il aurait été normal de voir Arsenal en passer 5 aux Sky Blues. Et c'est ce qui s'est passé ce week-end à l'occasion de la 24e journée de Première Ligue. Le problème, c'est qu'on a changé d'époque et ces dernières saisons, c'était Arsenal qui ne pesait pas lourd dans la course au titre face à la Dream Team de Guardiola, les Gunners faisaient illusion et City habituellement remettait l'église au milieu du village pour remporter le titre à la fin. Sauf que cette année, le champion d'Angleterre enchaîne les difficultés et si même Arsenal est capable de s'amuser à la maison face à lui, c'est que vraiment Salim Bongali, ça va très mal dans l'écurie de Guardiola, n'est-ce pas? Perdre contre Arsenal, le rival des dernières saisons, c'est tout un symbole. Perdre 5-1 surtout.
C'est ça, comme ça, et effectivement entre Guardiola et Arteta, on le rappelle, Arteta, et on l'a évoqué, qui a été son adjoint pendant très longtemps sur le banc de Manchester City. La semaine dernière, on évoquait Manchester City, notamment après la victoire face à Bruges en Ligue des Champions, où on disait, bon, ils ont eu chaud, très chaud, mais ils ont gagné il y a quelques jours face à Chelsea, là ils gagnent, certes difficilement, mais quand même ils se qualifient pour les barrages, ben on verra face à Arsenal ce qu'il en est, et s'il y a un élan qui s'est réellement créé, ou si ça a été presque un feu de paille ces victoires, et qui montre quelque chose de plus profond, ben là on l'a vu au final, ce mal plus profond, c'est vrai qu'il n'y avait rien au final dans ce match contre Arsenal, offensivement, défensivement. Alors déjà on avait vu des soucis défensifs encore une fois contre Bruges, contre Chelsea, contre tant d'autres équipes, mais là, et puis, vous avez des joueurs qui, juste pardon, qui même dans leur position de corps, dans leur décision, dans leur intention, il n'y avait rien hier face à Arsenal, c'était le néant. Ça faisait longtemps, même contre Tottenham, il y a quelques semaines, quand ils perdent 4-0 à domicile, j'avais pas vu autant de vide chez City, là j'ai rien vu.
Et puis un échec de leadership pour aller dans le prolongement de ce que dit, qu'on avait déjà vu un petit peu contre le PSG, des Bernardo Silva qui se fait dribbler, qui soupire devant tout le monde. Absolument. Et cet échec de leadership, et ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a pas de caractère. Et surtout, c'est un échec de jeu. Regardez à quel point le jeu de Guardiola est devenu inefficace. Cette possession à outrance qui ne marche plus. Ces fameuses relances courtes qui coûtent quasiment un but à chaque fois. Le premier est à le raté de Kai Havertz à 4 mètres du but pour une passe ratée. Le raté également, je crois que c'est Foden qui redonne le ballon sur le deuxième but. Tout ce que Guardiola a mis en place sur les 5, 6, 7 dernières années semble s'écrouler en l'espace de 2 mois. Alors évidemment, ils regagneront des matchs et à un moment donné, on va dire bah, ça va un peu mieux, comme ça avait été le cas sur les dernières semaines. Mais cette saison est terrible et je pense qu'il faut vraiment qu'elle se termine pour tourner une page. Et tourner une page, ça veut dire faire partir Guardiola.
Alors Manchester City, donc on le rappelle, avait connu un automne calamiteux avant de se reprendre. La défaite récente contre Paris en Ligue des Champions avait marqué un nouveau coup d'arrêt et donc confirmé par la déroute de l'Emirates ce week-end. Au classement de Premier League, City 4e, toujours en course, vous l'avez rappelé Salim, en Ligue des Champions également et de manière un petit peu miraculeuse. Donc il n'y a pas forcément de quoi être rassuré de ce côté-là. Vous parlez de Pep Guardiola parce qu'il est évidemment numéro 1 dans les félicitations quand tout va bien pour City. Il est aussi numéro 1 quand il faut trouver un coupable à la mauvaise passe actuelle. Que faire après la nouvelle déroute des Citizens? Eh bien la réponse de l'entraîneur.
On peut perdre par 2, 3 ou 4 buts d'écart. Mais dans les 20 dernières minutes, nous n'avons pas fait ce que nous avons fait au début du match. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous défendre après cette performance. Nous avions un plan et nous ne l'avons pas mis en œuvre. Les joueurs ont été fiers et ont voulu résoudre le problème, mais ce n'est pas la bonne méthode. À ce niveau, il faut être sérieux et s'en tenir au plan. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Voilà, j'espère que nous pourrons en tirer des leçons pour l'avenir.
Alors, il paraît quand même... Il nous inquiète un petit peu avec ses déclarations, Marc Libra, Pep Guardiola, parce que là,
il tape un peu sur ses joueurs.
Oui, voilà, vous le dites mieux que moi. Il explique qu'ils ne l'ont pas écouté, tout simplement.
La cassure est assez violente et ça fait quand même quelques semaines. Alors, on avait vu un regain de forme en se disant peut-être que, mais on est arrivé au bout du bout, c'est-à-dire qu'il en a tiré 120-130% de tout le monde. Et ça se comprend aujourd'hui qu'on en soit là. Quand on voit Salim parler d'attitude, Silva qui va mettre un coup de pied à un mec par terre. Jamais j'ai vu Silva faire ça sur le côté à la 70e. Il met un coup de pied à un mec. Silva, c'est un mec qui respecte tout le monde, qui est d'une gentillesse absolue. Il perd, il applaudit. Au parc, je vois des images de lui. Putain, c'est bizarre. Donc les mecs, ils sont au bout. Kevin De Bruyne, qui n'est plus que l'ombre de soi-même. Alors, il y a eu des blessures, il y a eu pas mal de choses. Mais je pense que à un moment donné, c'est tellement prenant, ça prend tellement la tête que...
Le schéma, la philosophie de Guardiola, c'est ça qui prend la tête?
En fait, la star, c'est Guardiola, qu'on le veuille ou non. Mais on a bien vu que si les joueurs n'ont plus envie de répondre présent, Guardiola, il disparaît direct. Hein. Et on en parlait en off, il est encore entraîneur, il a de la chance, parce que n'importe quel entraîneur, il aurait dégagé depuis très longtemps. Donc, je ne sais pas, je pense que maintenant, si on veut passer à autre chose, alors il faut qu'il finisse quatrième, hein. Mais il faut qu'il s'en aille.
Alors pour l'instant, donc j'ai dit un quatrième avec égalité de points par rapport à Newcastle. Donc c'est pas une quatrième place acquise.
Loin de là. Et juste parce que là encore en off et à juste titre, vous évoquez le fait qu'on évoquait Guardiola dans n'importe quel club au monde, n'importe quel coach, en tout cas à sa place aurait été viré. Juste la série qui arrive parce que nous sommes début février. D'ici début mars, il y a un match de cup face à Leyton, un petit dans quelques jours. Mais après, vous avez le Real, Newcastle, le Real, Liverpool, Tottenham, Nottingham, tout ça à la suite. Pardon, en un mois. Alors dans un mois, on pourra peut-être se reparler et là se dire, ben, si City stoppe, peut-être qu'enfin ils vont se dire, ben, merci pour tout ce que t'as fait Pep, mais faut que tu partes maintenant.
Il est arrivé en 2016, Naïm Moniol, on le rappelle, Guardiola, il est arrivé avec évidemment l'étiquette de meilleur entraîneur du monde et tout le projet Manchester City a été construit autour de lui. Comme le disait Marc, c'est la star. Sa philosophie de jeu prédomine par rapport à toutes les individualités. C'est-à-dire que si vous retirez Guardiola de l'équation, c'est tout l'édifice qui va s'écrouler. Donc, ils sont un peu coincé.
D'autant plus que c'est un club où le propriétaire habite à l'autre bout du monde. D'autant plus que Guardiola, quand il vient, il met son état-major. Il a ses gars à lui au recrutement, ses gars à lui à la direction, il a son staff à lui. Il incarne tellement ce club depuis des années qu'il est présent, lui ou son entourage, dans toutes les strates du club. Donc, s'il part, c'est tout un club qu'il faut rebâtir. Maintenant, l'effectif... Il est riche, on peut pas. Il recrute à coups de centaines de millions,
quasiment à chaque
mercato. Il y a un effectif. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il a une philosophie de jeu qui est extrêmement physiquement chronophage. Il a détruit ses joueurs. Cette manie de prendre des joueurs, de les mettre à des postes qui ne sont pas les leurs, de les faire disparaître 2 mois, de les ramener, je pense qu'il a perdu une partie des joueurs. Et je m'interroge, je l'ai dit la semaine dernière, je le redis aujourd'hui, jusqu'à quel point ce qui le touche actuellement dans sa vie privée rejaillit sur sa vie professionnelle. Parce que c'est un secret de Polichinelle, il a de gros problèmes dans sa vie privée. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y est plus. Et ça peut
c'est
se comprendre.
Pas évident aussi,
oui, ouais, bien sûr. Et ça peut se comprendre.
Il est en train de
c'est
divorcer.
C'est un club à repartir.
Pep Guardiola. Et il avait donné des signes de fébrilité, mais... notamment cet hiver, on se souvient de ces images où il se griffait tellement le crâne chauve qu'il y avait des
scarifications. Et j'emboîte le pas. Où est le propriétaire du club? Pourquoi le propriétaire du club n'est pas en tribune? Pourquoi
ça,
il ne se
montre
pas?
C'est le modèle de City, c'est-à-dire le modèle de beaucoup de clubs en Angleterre où le propriétaire n'est pas...
tu verras jamais le big boss, tu le vois jamais, tu as le manager qui est
si,
devant.
Dans certains clubs, tu le vois quand même, je pense.
Oui, mais en même temps, on ne peut pas lui reprocher parce que c'est quoi, 18 titres? Non, mais, donc en fait, moi j'accepte volontiers qu'il y ait Guardiola... un entraîneur qui vienne, qui fasse le big boss. On le voit avec Luis Enrique qui est en train de mettre quelque chose en place au PSG. Et pour l'instant, j'ai l'impression que ça fonctionne. La star, c'est lui et tout le monde tire dans le même sens. Il met des joueurs, parce qu'il est en train de faire ce qu'a fait Guardiola. Joueurs importants, Dembélé, il va me le sortir, truc. Des fois, c'est bien, c'est pas
alors,
bien.
On
il
parle
fait ce
pas
qu'il
de
veut.
Paris, mais c'est vrai qu'on a longtemps reproché à Paris de ne pas faire comme Manchester City, c'est-à-dire de ne pas donner les pleins
mais
pouvoirs
là, on
à un
les
projet
limites.
Sportif incarné par un entraîneur.
Après 9 ans, on en voit les limites. Mais il aura tellement porté que il a tout gagné.
Si, il finit tout à l'heure, il disait ils sont 4e, égalité. Ok, dans le pire des cas, il n'y a pas de Coupe d'Europe à Manchester City l'année prochaine. Ce qu'a fait Pep Guardiola, son bilan est plus que parfait, plus que positif. Historique, ce qu'il a bâti, les joueurs qu'il a transformés, les titres qu'il a gagnés, ce qu'il a permis dans sa rivalité à distance avec Liverpool, ça marque une époque. Mais il faut à un moment donné se dire, t'es un entraîneur à part, certes, au-dessus des Mourinho et de tout ce que tu veux, maintenant il faut s'en aller. On ne peut pas terminer, Manchester City ne peut pas repartir dans l'état où il est avec Guardiola.
Un dernier mot, Salim Bongali sur Guardiola, après on parle d'Arsenal.
Juste pour prolonger ton propos, Naïm, tu disais, Guardiola, il faut qu'il parte à un moment donné. Sauf que je rappelle, il y a quelques semaines, quelques mois, il a prolongé donc de 2 ans son contrat. Et est-ce que lui va de lui-même revenir sur ce contrat, presque revenir sur sa parole? Bon, je vais casser mon contrat, je vais partir plutôt. Pas la question d'être viré, de prendre un chèque, hein, c'est pas ça. Mais presque de faire comprendre aux gens, ben, je me suis loupé. Non, je pense que malheureusement, lui voudra aller jusqu'au bout du bout du bout du bout.
Ouais, mais il y a le facteur vie privée peut-être qui rentre en ligne de compte
maintenant. Ça peut compter, absolument.
Bon, écoutez, on suivra ça et on entendra dans quelques instants nos auditeurs s'exprimer sur l'avenir de Pep Guardiola. En attendant, parlons d'Arsenal, parce que ceux qui ont gagné largement et avec la manière, ce sont évidemment les Gunners de William Saliba, notamment le défenseur français.
C'est clair, on est très contents. C'est une équipe, même s'ils ne sont pas en confiance en ce moment, ce n'est pas une équipe facile à jouer. Et on se devait de les battre à la maison et on l'a fait avec la manière, donc c'est top.
C'est top, Arsenal qui dépasse enfin City, qui domine enfin City, c'est une bonne galie, mais si je puis dire, la mauvaise année. C'est-à-dire au moment où Arsenal est un peu largué dans la course au titre, au moment où Manchester City n'est pas le rival pour le titre, néanmoins, ça marque une progression par rapport au grand rival des précédentes saisons.
Déjà, rappelez-vous, lors du match aller, Arsenal avait failli battre City. Hein. Ça avait été dans le temps additionnel que les Sky Blues avaient égalisé. D'ailleurs, il y avait eu cette fameuse séquence, si vous vous en souvenez, où Haaland avait chambré Gabriel. Ce
là,
qu'a
il s'est fait chambrer.
Hier, le défenseur auprès de Haaland, en le chambrant de la même manière. D'ailleurs, pareil, les Skelly, lorsqu'il a marqué, il a fait la fameuse
position
manière
exacte.
C'était pas à faire. À son âge, il vient d'arriver.
Mais il se souvient de ce que Haaland lui a dit lors du match aller.
Pas lui. Voilà. Non, mais oui, mais pas lui.
C'est du chambrage. Après, bon.
Ça, le match aller, c'est peut-être son premier match, je crois.
C'était l'un de ses premiers matchs, effectivement, avec Haaland qui lui avait dit, mais t'es qui, toi? Donc c'est pour ça qu'il a réagi comme ça. Mais c'est vrai que Arsenal, réussi à s'imposer face à City et à être grand face à City. Malgré tout, je rappelle, face aux membres du Big Six, Arteta n'a plus perdu depuis 17 rencontres. Oui, face au gros club d'Angleterre, Arteta réussit désormais, même face à Liverpool. Arsenal ne perd plus face à Liverpool.
Oui, mais c'est une saison où, contrairement aux précédentes saisons, Arsenal ne fait même pas illusion dans la course au titre.
Et le problème, c'est que là où Arsenal perd toujours en constance, c'est face aux clubs moyens ou petits, où il y a de temps en temps des petits points qui sont perdus. Face à Fulham, on l'a vu récemment. Ouais. Face à d'autres petits, je mets les guillemets, là où Liverpool, face à ces petits, ne se loupe pas.
À mettre quand même en corrélation avec à chaque fois une équipe qui est stratosphérique. Pendant très longtemps, ça a été City. Cette année, c'est Liverpool. Et ce qui manque à Arsenal, on le dit quasiment tous les week-ends, c'est un 9. Regardez Kai Havertz, ce qu'il rate encore ce week-end, alors il marque. Tu vas me dire, oui, mais il a marqué. Oui, mais regardez encore ce qu'il rate.
Mais ça doit pas être 5-1, ça doit être 6-7-1,
facile. Si Arsenal a un numéro 9, comme justement City Haaland, comme Liverpool à Salah, comme Newcastle à Isaac, comme t'en as d'autres. Bah, c'est... aujourd'hui, Arsenal, peut-être qu'il est plus près. Je ne dis pas qu'il est devant, mais au moins, il est plus près. Arsenal n'a pas numéro 9. Et c'est d'autant plus fort ce que réalise Arsenal qu'il n'a pas un véritable buteur dans son équipe.
Allez, retour à Manchester, non plus pour parler des déboires de Manchester City. On va parler de ceux un peu plus habituels du voisin Manchester United.
Oh là là. Oh, Yorra couldn't win his header off the frame of the goal and bundled in by Mateta. And Crystal Palace have the lead. Munoz is through here and he's got Mateta up with him. Mateta for 2-0 and it is 2. A double for Jean-Philippe Mateta.
Today we just stick on the plan, listen to De Gaffa and work hard, and I think we deserve this win. Feeling very good. We work hard for those 3 points and I'm very happy.
Say again.
But it is defeat for Ruben Emery in sight. Courtesy of 2 goals from Jean-Philippe Mateta.
Say it again,
demande Jean-Philippe Mateta, un journaliste anglais qui vient l'interroger après la rencontre. Et pour cause, Jean-Philippe Mateta, eh bien, c'est vraiment l'homme de la victoire de Crystal Palace à Old Trafford contre Manchester United, 2-0, doublé pour le français. Un mot d'ailleurs sur ce vice-champion olympique, c'était l'été dernier à Paris, qui en a 13 buts, Marc Libra en Première Ligue cette saison. Jean-Philippe Mateta, 6 buts rien qu'au mois de janvier. Si ça, c'est pas être en feu. Est-ce qu'il peut espérer un petit quelque chose en bleu qui ne soit plus olympique, mais bleu tout court dans un futur proche ? Est-ce que c'est pas un peu l'attaquant français le plus sous-coté, le plus hors radar, injustement hors radar moment ?
Alors nous, on suit la plupart du temps, on suit la Première Ligue, on suit le Premiership, on peut savoir, c'est pas nouveau qu'il s'est marqué des buts. S'il fait les jeux, c'est pour le récompenser. Après, je pense que malheureusement, le niveau au-dessus, c'est beaucoup trop fort, il y a trop de joueurs plus importants.
On l'avait reçu après les Jeux, il avait postulé à la succession d'Olivier Giroud. Hein.
Mais il mériterait. Mais dans ces cas-là, il y a tellement d'attaquants en France qui mériteraient aussi. Non, mais...
Ça ne vous plaît pas tant que ça, Jean-Philippe Mateta,
mais moi, ça me, non, mais ça me plairait de voir, puisque de toute façon, on peut prendre aujourd'hui, à une époque, on ne prenait pas un joueur tant qu'il n'avait pas mis 40 ou 50 buts et qu'il n'était pas une référence. Aujourd'hui, on peut flamber 3-4 mois et être une référence. Pourquoi ne pas lui laisser sa chance ? Ça me semble compliqué parce qu'il y en a tellement qui sont en salle d'attente pour rentrer avec l'équipe de Deschamps. Ça me semble dur.
Il n'a pas une cote quand même assez intéressante en Angleterre, Jean-Philippe Mateta ? Parce que ça fait quand même pas mal de temps finalement.
Hugo, les gens ne connaissent même pas. S'ils ne suivent pas, ils ne le connaissent pas.
Non, en Angleterre, il a une petite cote en faisant ce qu'il fait effectivement à Palace. Après, et c'est un fait, il décollera vraiment en Angleterre s'il arrive à passer le cut et aller dans l'un des membres du Big Six ou à un Newcastle.
25 buts cette saison.
Ou en mettant, et encore, il faut qu'il le fasse plus longtemps. Et j'insiste malgré tout sur le côté être dans un club plus huppé. Si vous le faites dans un club plus huppé, là, on vous laisse parler.
Est-ce qu'il a le niveau pour y aller ?
Absolument, c'est ça.
Son passage à Lyon est un échec. En fait, Mateta est un bon joueur de club moyen. Il a une carrière honnête, je veux dire.
Alors c'est vrai qu'il a échoué en France et c'est plutôt par l'étranger qu'il a.
Oui, en Allemagne, en Angleterre, c'est un attaquant honnête. Mais Marc a raison de dire aujourd'hui, quand tu flambes 3 mois, 4 mois, tu vas en équipe de France. L'équipe de France, c'est quand même pour l'élite. C'est pour les meilleurs attaquants du monde.
Je me permets juste de préciser une chose, c'est lorsqu'il est à Palace, donc Patrick Vieira est également l'entraîneur de Palace. Patrick Vieira n'en veut absolument pas à lui. Il n'en veut pas du tout. Donc pendant 6 mois, il ne joue pas du tout. Il a des gros problèmes, Patrick Vieira, d'effectifs. Il y avait des joueurs qui étaient régulièrement blessés. Conséquence, il est obligé de le mettre devant.
Et il va flamber.
Et il va commencer à flamber petit à petit. Donc, il n'a pas lâché. Et ça, c'est vrai que cet état d'esprit-là, il n'est pas inintéressant.
Et ça fait très Olivier Giroud, ça.
Il a 28 ans, Mateta. D'ailleurs, quand tu parlais tout à l'heure de sa place aux Jeux Olympiques, je ne l'ai plus en tête, mais à vérifier s'il était dans la liste de départ ou s'il est arrivé parce que justement,
les joueurs
qui ne pouvaient pas venir.
Pas donné,
Thierry Henry s'est rabattu un peu sur ce qui se passait.
En attendant, c'est toujours sympa de parler de ce genre de joueurs pas tant médiatisé que ça, mais qui réalise quand même de belles choses. On va parler d'un club dont on parle beaucoup trop par rapport à ses performances, à savoir United, qui, un peu comme City, semblait aller mieux. Toute proportion gardée, puisqu'après sa nouvelle déroute du week-end, United est 13e au classement. Il y a toujours pas mal de doutes autour de Ruben Amorim, le coach arrivé en cours de saison, portugais, alors qui a plutôt, paradoxalement, aimé le visage de son équipe contre Palace, malgré la défaite à domicile.
Le résultat est très mauvais, alors que l'équipe a plutôt bien joué. Nous avons eu des occasions, mais nous avons concédé 2 buts évitable. Et la blessure de Lisandro Martinez est un coup dur. Néanmoins, nous avons mieux joué que lors de nos précédentes rencontres. Même si la défaite est difficile à avaler, nous allons nous appuyer sur ce match pour avancer.
Est-ce que vous avez regardé le match, Marc Libra? Est-ce qu'on peut penser qu'il nous enfume un petit peu, notre ami Amorim, en nous expliquant que franchement, c'est très encourageant ce que montre United contre Crystal Palace?
Il veut un petit peu sauver sa peau, il veut essayer de rassurer certains joueurs. Aujourd'hui, quand on voit l'attaque et que c'est le jeune Diallo qui est, entre guillemets, le joueur attendu alors que c'est un gamin, c'est pas forcément lui qu'on va attendre.
Diallo et Mainou et compagnie.
Oui, non, mais tu vois, bien sûr.
Et puis Mainou qui joue devant, puis dans une semaine, il y a 15 jours ou dans une semaine, il sera devant la défense. Ouais. T'as Maguire qui est toujours titulaire derrière, c'est-à-dire que, bon, le problème est tellement profond qu'il dépasse le cadre du terrain à Manchester United. Je pense que, tout à l'heure, on parlait des propriétaires avec le... À Manchester City, Ineos est arrivé dans le capital. Mm-hmm. Pourquoi faire? Vous avez vu un changement, vous? Non. Voilà, il n'y a pas de changement. Donc
après, les Glazers qui ont...
Les Glazers, tu veux vraiment qu'on parle de ce que font les Glazers
le club à Manchester tout seul, sont extrêmement critiqués. Alors peut-être
oui,
que...
Oui, à juste titre. Regardez,
y a un chandruine,
j'ai regardé depuis le départ de Ferguson en 2013, en transfert. Hein, je ne parle pas d'impôts, de salaire. En transfert, on est quasiment à 2 milliards. C'est des mercato à 200 millions à chaque coup. Pour quel résultat? T'es pas champion depuis 2013. Alors oui, il y a une Coupe d'Europe en 2017. C'est vrai, il y a une Ligue Europa. Mais c'est un échec constant. Et plus ça va, plus les mercatos sont volumineux en nombre de joueurs et en argent dépensé. Mais plus sur le terrain, l'effectif s'affaiblit. Mainou, Diallo, Martinez, Maguire est encore titulaire. Manchester United s'est fait des recrutements avec des joueurs qui étaient en échec. Ougarté, De Ligt, Mazraoui, ouais, tous ces mecs-là n'étaient pas bons dans leur club, on n'en voulait pas, ils ont pris le petit Xerxi à Bologne. Je lui souhaite plein de belles choses à ce gamin-là, mais il vient de Bologne. À une époque, Manchester allait chercher le meilleur joueur de la Juve ou du Milan. Donc c'est une équipe qui s'est affaiblie, dont le problème dépasse le cadre du terrain. On peut critiquer Amorim à l'instant T, dire « il attaque comme si, ça va pas, il défend comme ça, ça va pas, il a mis tel joueur, c'est pas bon ». La vérité, c'est que tant que vous aurez un club qui va dans le mur avec des dirigeants qui naviguent à vue, des mercatos sans queue ni tête, vous pourrez mettre n'importe quel entraîneur sur le banc, ça échouera. Ralf Rangnick, c'est un bon entraîneur. Hein. Ralf Rangnick, il a échoué. Hein. Puis Van Gaal, c'est un bon entraîneur aussi. Hein. Il a échoué. Hein. Et Amorim, avant d'être à Manchester, c'était un bon entraîneur. Il est en train d'échouer. Donc si tout le monde échoue, c'est peut-être que le problème ne vient pas du banc, Hugo.
C'est le souci effectivement du mercato et le souci principal, parce qu'il n'y a aucune logique au final dans les transferts. Et ils ont été évoqués par Naïm il y a quelques instants. C'est vrai qu'on se dit, mais quel joueur arrive là? Attends, c'est pour faire quoi? Casemiro, c'est ta star, ok. Et au final, au bout d'un an, on ne le voit quasiment plus. Ugarte, ça a été évoqué. Et on pourrait quasiment aligner tous les joueurs comme ça.
Ils sont trompés. Hein.
Et puis, là, vous avez Amorim qui était arrivé, qui est censé amener quelque chose, un influx, etc. Là, on espère, parce que c'est quand même quelqu'un d'intelligent qui a montré quand même certaines qualités par le passé, qui puisse tenir jusqu'à juin. Je rappelle juste que là, sur les 7 premiers matchs qu'il a fait à la tête de United à domicile, 5 défaites! Et pas 5 défaites contre Liverpool, contre Arsenal, etc. C'est contre des équipes qui perdent contre tout le monde. Il y a un énorme souci de jeu. Mais heureusement qu'United est 13e et heureusement qu'il y a des, heureusement qu'il y a des plus nuls derrière. Parce que sinon, United serait dans la zone rouge.
Et en matière de mercato, tu trouves intelligent d'envoyer Rashford à Aston Villa, mais alors que dans deux mois
raison,
ils peuvent en coller une.
Mais
tu vois, on pourrait parler de ce bêtise. Transfert Rashford. Alors il était en perdition a priori, mais vous perdez celui qui a été l'un des meilleurs symboles, l'un des derniers symboles d'un certain savoir-faire local, un gamin du coin qui a le club dans la peau, et même lui ça ne marche plus, on est obligé de l'exfiltrer. Enfin, il y a un constat d'échec aussi à travers ce transfert où il symbolise l'échec total de ce club.
Le football romantique n'existe plus aujourd'hui. L'entraîneur arrive, vous aime pas, vous partez. C'est simple, c'est pas plus difficile que ça.
J'ai des chiffres en fin d'émission qui vont confirmer votre
intuition. Mais Naïm parle de quelque chose aussi qui est impressionnant, c'est qu'aujourd'hui on est capable de jeter 20, 30, 40 millions sur des mecs qui jamais n'auraient mérité, ne doivent aller dans ce genre de club. C'est de partout. Il y a des exemples. Moi, je cite peut-être plus la France que l'Angleterre.
Et par ailleurs, vous séparez d'un gamin du club comme Rashford.
Oui, mais ils en ont plus rien à faire aujourd'hui, le gamin du club. Mmh. C'est pas l'identité du club.
À un moment donné, la classe de.
Oui, mais alors c'est pareil. C'est toujours pareil. Naïm met le doigt sur un truc. 2013, qui est parti?
Ferguson.
Il y a un problème. Qui en monte dans la tribune? Ferguson. Il y a un truc au club? Ferguson. J'ai envie de vous dire qu'à un moment donné, il faut qu'il disparaisse. Il faut plus le voir. Mais en fait, chaque fois, on vous explique. Mais vous rendez compte, avec Ferguson, avec ceci, beaucoup de clubs qui ont gagné beaucoup de titres, ils ont mis du temps à digérer ce genre de choses. Ils ont vécu combien de temps avec Ferguson? 30 ans?
Quasiment,
ouais. Quasiment, hein. Ouais, c'est 80, 86, 2013.
C'est-à-dire que là, tu t'imagines, on parlait de Guardiola qui a passé 8 ans, 9 ans. L'autre, il a mis 30 ans. C'est-à-dire que tout sentait lui, tout respirait lui, tout vivait Ferguson. Et là, du jour au lendemain, tout s'écroule. C'est-à-dire que tous les gens, il a vu des gens mourir, naître, il a tout connu. Et là, maintenant, il n'est plus là, mais il est toujours ici.
Arsenal, il est parvenu avec
Wenger. C'est ce que j'allais dire. C'est que United est en train de vivre ce qu'Arsenal a vécu il y a quelques années. Quand ils n'arrivaient même plus à se qualifier pour la Coupe d'Europe, etc. Et là, enfin, ça commence à prendre. Et encore, on dit ça commence à prendre, mais ils ne gagnent pas de titre.
Tu ne seras pas champion.
C'est ça.
Bon, allez, comme chaque lundi, et c'est ainsi qu'on va refermer notre page anglaise, les auditeurs de RFI prennent la parole dans Radio Foot. La question: Guardiola doit-il quitter Manchester City? Vos réponses.
C'est Emmanuel Kane depuis le Metogo. Pep Guardiola peut redonner la dynamique à cette équipe de City à l'intersaison quand il aura changé ne serait-ce que la moitié des cadres de cet effectif-là. Les cadres sont épuisés physiquement tout comme mentalement. Et dans cette situation, même avec le meilleur coach du monde, ça ne pourra pas marcher. Un changement de coach ne changera pas la situation.
Et Wissou Marus depuis le Bénin Cotonou. Je pense que Guardiola peut rester. Même si on amène un autre coach, il ne pourra pas être à la hauteur de Guardiola. C'est maintenant à Guardiola de bien vouloir chercher d'autres joueurs pour pouvoir étoffer son effectif.
Mariama depuis Guinée-Conakry. Guardiola, je pense qu'il n'aurait pas dû prolonger. Maintenant, c'est une fin de cycle. Les joueurs sont épuisés et lui aussi. Je pense qu'on aura du mal à prédire comment il va se relever. C'est la première fois qu'on le voit dans une situation pareille. C'est la première fois également qu'il se retrouve à ne pas gagner.
C'est Dib Sam depuis Kursar en Bata Sénégal. Ce match nous montre que Manchester City est en fin de cycle. Il ne presse pas très haut leurs adversaires. Et Pep Guardiola, actuellement, il montre ses limites. Il doit sortir par la grande porte. Il doit chercher une autre challenge.
C'est Koran Bey depuis le Sénégal. On a vu hier une défaite humiliante. Je pense que Pep Guardiola, son air est fini. Il doit renoncer et abandonner City.
Vous êtes toutes et tous invités à vous exprimer chaque lundi dans Radio Foot. Une note vocale sur WhatsApp. Le numéro, vous le trouverez sur la page Facebook de l'émission Radio Foot International. Et Pierre-Olivier Guérin est là pour recueillir vos réponses et vos messages. Every day, it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way.
Ce ballon pour Mason Greenwood avec Yaoui Bernard dans la surface. Le ballon, il est tout seul, Louis! Henrique, les 3 buts à 2! Il n'y a qu'un seul Olympique, c'est l'Olympique de Marseille. Victoire 3 buts à 2, 10 points d'avance sur les Lyonnais et 3 points d'avance désormais sur Monaco.
Il y a déjà un grand motif de satisfaction. Merci de ne pas parler les résumés.
On va parler de
bijoux
vrai
sonores concoctés par Laurent Salerno, le maestro, s'il vous plaît, Marc Libra.
Mais c'est magnifique.
Un grand motif de satisfaction. Je comprends votre excitation pour vous et pour tous les Marseillais. Deux victoires, deux hautes luttes, à l'aller comme au retour. 3-2 à chaque fois contre Lyon, dans l'Olympico, dans des scénarios spectaculaires. Après tout, c'est ça la vraie rivalité, non?
Bien
contre
sûr.
Paris, ça ne compte plus. Maintenant, ce qui compte, c'est de battre deux fois Lyon.
Ce qu'il faut, c'est gagner des matchs pour être déjà en l'Europe à Marseille.
Oui, mais quand...
Déjà, c'est... Voilà, il faut prendre...
Oui, mais quand en plus, on est contre Lyon, ça rappelle un peu comme...
Oui, mais après, on perd contre Auxerre, donc je voulais... C'est embêtant, c'est un peu gênant.
Ouais, mais... ça me rappelle ma jeunesse. Je me souviens que dans les années 2000, une saison ratée était quand même récupérée, rattrapée par les deux victoires contre Paris. Là, j'ai l'impression que...
Il y avait
c'est la même chose, mais d'autant plus que la saison n'est pas ratée, loin de là, puisque vous êtes intouchable deuxième.
Oui.
D'autant plus intouchable que vous gagnez ces matchs-là, justement, contre Lyon, comme hier.
Alors, je pense que Marseille devrait jouer que 30 minutes par match. C'est-à-dire que jouer 30 minutes, et puis parce que là, il faut être très franc, la première période, c'est jusqu'à l'heure de jeu.
Des deux côtés. Hein.
Des deux côtés.
C'est, oui, c'est paradoxal, parce que c'est une rencontre plutôt spectaculaire, finalement.
Non,
mais nul en première période. Ouais.
25 dernières minutes sont plutôt sympas au premier but. Il y a un peu de vie au but de Tolisso. Mais c'est vrai que... pour les voir souvent, c'est vrai que des fois, il y a une mi-temps, il ne se passe rien. Et là, il y a une mi-temps, plus 15 minutes. C'est-à-dire que Lyon se dit, ah ben c'est bizarre, ils ne nous attaquent pas, ils gardent la balle. Seconde période, le nouveau coach dit, bon écoutez, attaquez quand même, parce qu'on risque de marquer. Ils attaquent, ils marquent. Ils attaquent encore, ils ont failli marquer. Puis après, Guiri rentre. Alors, ce n'est pas l'effet Guiri, mais Guiri rentre, il dévisse, il prend extérieur, passe décisive. Et puis là, le stade se met en route. Oui. S'il y a des joueurs qui ne comprennent pas ce que c'est que Marseille, dans le bon et dans le mauvais, là, ils ont vu le fantastique, quoi qu'il arrive.
Alors, justement, De Zerbi, l'entraîneur qui parle du stade Vélodrome, c'est assez fort.
Ho detto alla squadra che questa sera mi sento un privilegiato, un fortunato per due cose. La prima per 90 minutes.
Alors ce soir, j'ai dit à mon équipe que je me sentais privilégié et chanceux. Tout d'abord, privilégié et chanceux d'être leur entraîneur, l'entraîneur de ces joueurs qui, pendant 90 minutes, pas seulement deuxième mi-temps, mais vraiment pendant toute la durée du match, ont joué avec sacrifice, avec cœur, caractère, avec le ballon, avec tout ce qui était nécessaire ce soir. Et puis, chanceux aussi d'être l'entraîneur de l'Olympique de Marseille parce que ce stade est vraiment unique en Europe et moi, j'en ai quand même passé des stades. Mais je peux dire que c'est vraiment un privilège et bien qu'on soit payé pour travailler ici en tant que professionnel, il faudrait que nous-mêmes payions le billet, je pense, les soirs de match pour voir ce spectacle. Et je ne le dis pas comme ça pour faire plaisir, mais je dis vraiment ce que je pense.
Vous n'êtes pas d'accord avec ça.
Mais voilà, maintenant, il veut plus d'argent.
Pourquoi il n'entraîne pas gratuitement lui, non, il peut entraîner gratuitement.
Naïmoniol, je le cite, je balance, a dit ouais, le petit coup de brosse à reluire.
Bah, il sort de deux matchs tout moisis contre Strasbourg et Nice. Là, il a besoin un petit peu de se remettre les supporters dans la poche. Donc, non, mais évidemment, l'ambiance était fantastique. On n'a pas attendu De Zerbi pour le savoir.
Marseille, donc solide deuxième du championnat de France. Trop solide pour la concurrence après 20 journées. Ça va pas bouger. Salim
Bangali. En fait, c'est ce mot solide avec cette équipe de l'OM qui, hier, effectivement, en marque 3, l'aspect offensif, etc. Mais Marc l'a très bien dit, à 1-0, il y a des opportunités incroyables pour Lyon. Et puis, pardon, cette défense, elle dégage des trucs par séquence. Oh, on est là, on dit, mais qu'est-ce qu'ils font, Murillo, Balerdi, Cornelius, toute la clique défensive. Pardon, hier, c'est surtout que Lyon manque de réussite. Mais Lyon aurait pu largement mettre 2 voire 3-0.
C'est une équipe, de toute façon, dès que tu arrives à trouver de la profondeur, elle est en difficulté. Elle est en difficulté. Quentin Merlin, qu'on essaye de nous vendre comme une espèce de latéral gauche incroyable, comme beaucoup de joueurs modernes.
Piston gauche, maintenant, il est piston.
Dès qu'il faut défendre, tu te rends compte que c'est même presque pas un footballeur. Et alors, ce qui est. Il y a quelque chose de très gênant chez Marseille. Moi, j'adore leur caractère, ce qui est d'ailleurs leur marque de fabrique depuis longtemps. J'adore leur caractère. Ils ont une efficacité quasi clinique, parce qu'ils, finalement, quasiment chaque occasion fait mouche ou pratiquement. Mais alors, contre les gros, tant qu'ils n'en ont pas pris une, ils ne bougent pas. Rappelle-toi le match de Monaco, ils attendent d'être menés 1-0 pour rejouer en deuxième mi-temps. Le match de Coupe de France contre Lille, c'était la même chose. Le match contre Nice, ils n'ont pas existé. Contre Paris, ça a été plié 20 minutes. Alors, comme ils sont plus gros que la plupart des équipes de Ligue 1, ils vont s'en sortir parce que tu envoies 4 équipes dans le wagon de la Ligue des Champions. Ils y seront. Et ça sera mérité parce que c'est vrai que sur le pouvoir offensif, ils méritent d'y aller. Mais quand, quand ça va grimper d'un step, sachant que tu as encore l'équipe qui va changer pratiquement de moitié l'année prochaine, ça va devenir quoi ? Cette équipe a besoin d'être forte tout de suite. Faut pas prendre une tarte pour commencer à se battre parce que le jour où elle est bien mise, la tarte, t'es KO. Ça a été le cas contre Nice. Voilà, c'est le vrai reproche que je fais à Marseille.
Allez, Marc Libra, deux joueurs qui ont retenu votre attention, Rabiot et Greenwood, c'est eux les stars et c'est eux les vrais leaders, on l'a encore vu hier, de cette équipe.
Alors oui, bon, pour avoir... Enfin... Tout le monde parle de ces deux joueurs, mais encore, le meilleur joueur de la saison, c'est Rulli, parce que c'est Rulli qui les laisse dans le coup. Hein.
Le gardien, donc.
Bah, c'est lui le meilleur. Faut arrêter, c'est lui. Parce que lui, il fait deux arrêts. Tolisso, bon, il lui en fait une. La deuxième, Tolisso, il doit marquer. Il lui met le petit main pour l'empêcher. Et ensuite, il y a
la frappe enroulée
qui va chercher. Et tout ça, en 4 minutes, où Balerdi, le capitaine, il prend l'eau. C'est-à-dire que c'est des longs ballons par-dessus. Alors avant, c'était Brassier qui récupérait. Brassier ne savait pas quoi faire. Brassier n'est plus là. Et c'est lui qui les récupère et il ne sait pas quoi en faire. Donc, Rulli a été encore une fois le meilleur joueur. Et après,
le talent offensif individuel.
En fait, c'est même pas ça. C'est-à-dire que pour avoir vécu cette situation, à la demi-heure de jeu, quand ils sont en train et que la machine se met en route et que le stade est derrière, ils sont inarrêtables. Ils marchent sur tout le monde. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est Rulli l'élément important. Et puis après, les mecs. Mason Greenwood, il met quand même 13 buts. Hein.
Bah oui.
Et il y en a encore qui me disent « Ouais, mais on n'est pas très content. » Avec ce qu'il a vécu, l'arrivée qu'il a eue, les problèmes qu'il a eus, Ben, il met 13 buts et Marseille est second.
Bon, au
donc,
final,
c'est pas forcément un accident. Et j'entends ce que vous dites tous les deux. Vous êtes très durs et il n'y a pas longtemps, je vous rejoignais.
Mais
putain, il se passe un truc.
Non,
quand
mais
même.
Il se passe
je suis désolé, les gars.
Mais,
je vous assure.
Les résultats sont là, il n'y a pas de problème.
Ils subissent une heure où ils sont lamentables. Y a, et non, c'est mais juste pour... Merlin qui essaye de centrer. Mais après,
mais
c'est
Marc,
dur.
On ne dit pas le contraire. On est même d'accord. C'est pour visualiser vraiment certains joueurs défensifs et individuellement.
Mais vous avez raison.
Bon sang, défensivement.
Mais t'es deuxième.
Si l'année prochaine, t'es en Ligue des Champions avec ces joueurs-là, tu vas faire zéro.
Dernier mot, juste
c'est une victoire, oui, c'est une victoire qui pose quelques questions. Est-ce que dorénavant, Rabiot va jouer aussi haut? Est-ce qu'on termine la saison avec un Rabiot aussi haut? Est-ce que Greenwood, dorénavant, prend la pointe et Mopé reste sur le banc? Est-ce qu'on a acheté Guiri pour être un joker? Voilà, la victoire d'hier, qui est fantastique, 3 points, Lyon, t'es deuxième, tu regagnes, très bien. Mais elle pose des questions, il va falloir être attentif sur la suite, voilà.
Bon, on est très en retard.
Tout le monde se le pense, c'est vrai. Hein.
On voulait parler éventuellement de Lyon, de la première ratée de Paulo Fonseca, mais on va les laisser tranquilles, les Lyonnais,
ouais,
parce que vous avez été plus inspiré
sur les
Marseillais. Mais en Ligue 1, il y a eu un autre événement ce week-end et ça nous tient à cœur dans Radio Foot d'y revenir. Un certain Habib Bey s'est illustré.
27 ans après ses débuts de joueur ici même à Rennes, sous le maillot strasbourgeois, Habib Bey fait sa grande première sur un banc de Ligue 1 et le destin a voulu dans cette 20e journée que cette découverte se fasse autour d'un Rennes-Strasbourg avec d'un côté des Rouges et Noirs qui veulent enfin lancer cette année 2025 et de l'autre un Racing qui veut confirmer 2 mois d'invincibilité.
Première réussie pour Habib Bey, l'ancien lion de la Teranga, notre ex-consultant vedette également, celui qui avait fait des débuts remarqués en tant qu'entraîneur sur le banc du Red Star, en 3e division française. Sur le fil, Habib Bey, il a remporté son premier match à la tête de Rennes face à Strasbourg. 1-0, un but de Blas dans les dernières minutes. Habib Bey a donc remporté son premier match en tant qu'entraîneur sur un banc de Ligue 1. Bravo à lui. Est-ce que ça vous donne des signaux encourageants pour la suite? On sait qu'il voulait passer à cet échelon supérieur, Habib.
Il se facilite pas la vie en arrivant dans un club qui est quasi
relégable. Qui est en perdition.
Voilà. Non mais c'est très bien d'avoir gagné pour la première. Il y avait un choc psychologique à insuffler. Et de toute façon, Sampaoli se remettre en cause ses qualités était une erreur de casting. Maintenant, c'est un match qui était poussif. Tu n'as pas vu un grand Rennes, tu n'as pas vu un grand Strasbourg non plus.
Il venait d'arriver, donc il n'a pas eu le temps.
Il vient d'arriver, il n'a pas eu le temps. Tu gagnes 1-0. Le score est bien, c'est 3 points. Ça te permet d'engranger de la confiance. Le vrai point positif, c'est que Rennes s'est refait une équipe avec quasiment un joueur par ligne. Hein, parce que quand tu prends Samba Fofana, que tu prends le japonais dont le nom m'échappe,
Furuhashi.
Furuhashi, voilà.
Ouais, mais ça ne marchait pas avec Sampaoli, parce que ces joueurs-là sont arrivés sous
Sampaoli,
mais ça marchait pas.
Peu, je sais pas. Et surtout, le calendrier, parce que sur la mauvaise série rennaise, t'as quand même fait Nice, Marseille, Monaco et Brest. Là, tu vas faire, t'auras Lille dans 15 jours. Par contre, tu fais Saint-Etienne, Reims, Montpellier. Donc, il va avoir 3 matchs. Je dis pas que c'est facile.
Ça, c'est des équipes.
Mais il va avoir 3 matchs normalement où il va pouvoir commencer à poser les jalons.
On l'écoute, Habib Bey.
Exceptionnel. Le public du Roazhon Park a été avec nous tout le temps. Et je pense que ça a donné beaucoup de force aux joueurs. Je suis très, très content par mes joueurs. C'est vraiment. Je sais qu'ils ont été là chercher, ils ont fait énormément d'efforts. Ça a été dur ces derniers jours, mais on a été avec eux, ils ont été avec nous. Et là, de les voir comme ça, ça me fait vraiment plaisir. C'est mon plus grand bonheur. La victoire, c'est une bonne chose, c'est un long parcours qu'on aura. Et je suis content pour mes garçons.
Il joue gros, l'ancien capitaine de l'OM, Marc Libra, parce qu'il a quitté le Red Star après les avoir menés en 2e division. Il voulait aller en Ligue 1, ça ne s'est pas fait l'été dernier.
Dit, bien sûr.
Là, il récupère, comme disait Naïm, un club en difficulté.
Une patate chaude, ça s'appelle.
Une patate chaude, ouais. Et ouais. J'ai envie de dire, il n'a pas tellement le droit à l'erreur. S'il se plante à Rennes, il sera peut-être obligé de revenir en arrière.
Non, mais, tout dépend après son état d'esprit, sa mentalité. C'est un gros travailleur qui est passé par toutes les étapes pour arriver où il le veut. Il a un plan qui dit moi je veux faire ça, grandir comme ça. Il voulait un club de Ligue 1. On lui a donné. C'est une superbe opportunité pour lui. Et j'espère que du côté de Rennes, on lui a bien dit, tu peux nous sauver s'il te plaît, puis on redémarre sur de nouvelles bases. Parce que là, il n'a rien choisi. Les joueurs, il les connaît pas. La plupart.
Ça,
il les
truc.
Connaît de nom, mais voyez. Donc si on lui, il reste 14 matchs, si mes souvenirs sont bons, tu peux nous sauver, essayer de finir 7e, 8e.
D'ailleurs, il a un contrat de 6 mois plus 1 an. Hein.
Oui, voilà. Et le problème, c'est que j'ai presque envie de dire qu'on connaît déjà le nom de son successeur. Parce que beaucoup disent que Franck Hez, donc l'ancien entraîneur de Lens, actuel entraîneur de Nice, est déjà plus ou moins préempté
la direction de Rennes,
l'année prochaine, parce que les anciens dirigeants de Lens sont à Rennes. Bon, c'est pas forcément la facilité, mais je pense que ça lui fait pas peur.
Si vraiment Habib, enfin, j'ai entendu, mais si vraiment ils prennent Habib et que d'un coup c'est S qui arrive, mais ils ont pas de figure, les mecs.
Ouais, c'est sérieux. Non, mais c'est un autre défi pour lui.
Le football n'existe plus de mon époque, mais là il faut qu'ils arrêtent. Non, mais sérieux.
Justement, dans une minute, on parle de ce qu'est devenu votre football. Simplement, Salim Bongali, c'est quand même pas mal une victoire contre Strasbourg, qui est quand même le club de première ligue de la Ligue 1, puisqu'il qui appartient à Chelsea, qui est entraîné par un entraîneur
où Abibay a joué, faut-il le rappeler.
Oui, c'est vrai.
Le
club, on l'a entendu de ses débuts en première division. Mais Strasbourg, c'est plutôt un client.
Oui, non, et c'est surtout un club joueur, effectivement. Donc réussir à ne pas prendre de but face à un tel club, parce que Strasbourg, pour le coup, c'est un club qui sait se procurer des opportunités et marquer. Donc faire un clean sheet, ça compte quand même dans les esprits. Brice Samba a été très critiqué. Il a réussi à faire un match sans prendre de but. Vous gagnez 1-0. Forcément, ça démarre bien. On va attendre effectivement de se prononcer, de voir surtout les prochaines rencontres. Mais déjà, c'est forcément un élan positif. On est tous d'accord là-dessus.
Allez, bon courage à Habib Bey pour ses débuts d'entraîneur en Ligue 1. On passe au dernier thème de notre émission. Beaucoup de chiffres qui donnent le vertige, voire carrément mal à la tête.
Le football est devenu un produit. Le produit, c'est le joueur.
On se dirige vers le transfert du siècle avec lui.
Bien sûr qu'on va discuter, on va réfléchir, on va voir s'il y a des belles opportunités.
Et Michel Platini, on n'en trouve pas tous les joueurs.
78 742 transferts internationaux de joueurs réalisés l'année dernière. C'est ce que nous dit le rapport Global Transfer Market 2024. J'ai envie de dire, rien que le nom, c'est inquiétant. Global Transfer Market, c'est un rapport de la FIFA. 8,59 milliards de dollars américains dépensés en frais de transfert l'année passée. Alors c'est moins qu'en 2023, petit joueur, mais c'est quand même pas mal. On parlait de l'OM et de l'OL hein, il y a quelques instants, de clubs qui donnent le tournis à chaque mercato et critiqués pour cette frénésie sur le marché des transferts. Vous parliez, Marc Libra, d'une perte de romantisme dans le monde du football.
Je suis très romantique.
Quel sens de la litote, hein, si je puis dire, et de l'euphémisme que vous inspirent ces chiffres. 78 742 transferts de joueurs réalisés l'année dernière. Et plus
c'est
de
effrayant.
8 millions, non, milliards de dollars dépensés.
Mon époque, déjà, il n'y avait pas le mercato d'hiver. Bon, il y a le mercato d'hiver. Aujourd'hui, le mercato, les plus gros contrats, ce ne sont pas forcément. En fait, le mercato permet à beaucoup de mecs qui sont dans une situation très compliquée d'aller voir ailleurs. Je prends l'exemple de Wahi, situation compliquée à Lens. Il rebondit à Marseille sur une somme astronomique, puis il rebondit encore avec une somme astronomique. Mais c'est fantastique, le football. C'est-à-dire que les mecs qui nous dirigent, c'est fantastique en fait.
Alors j'ai oublié de préciser que c'est un record historique, c'est 78 742 transferts internationaux.
Oui, non mais bon, c'est... En fait, avant on avait l'album Panini, vous vous rappelez ? Il y avait une tête qui changeait.
Ah, du coup, t'en as parlé. Oui,
oui, oui mais
la semaine dernière.
Non, mais je vous écoute, vous savez, je suis un passionné.
Là, maintenant, vous pouvez changer l'album Panini tous les 6 mois.
Tous les 3 mois. Joker médical, Joker, c'est bon, il faut arrêter. En décembre, il peut signer, en janvier, il peut signer, Joker de luxe. Non, mais il faut arrêter. Mais malheureusement, le football business, c'est qu'aujourd'hui, je me considère un bout de viande, parce que j'ai été un bout de viande à l'époque. Aujourd'hui, c'est encore plus important qu'avant.
Salut Mangali.
Juste, j'ai un sentiment souvent, je pense toujours à ça quand je pense au foot français notamment. Il y a eu un cut qui a été dépassé. Pour moi, c'est avec le PSG notamment, avec certaines stars qui sont arrivées. Et notamment, un exemple, le cas Neymar. Lorsque la fameuse clause libératoire avait été payée au Barça, les 222 millions d'euros. Et là, donc, déjà, le football français pouvait se permettre de dépenser de telles sommes parce que, rappelez-vous, sur la même période, il y a Monaco qui va dépenser des sommes. Alors, vous allez me dire, Mbappé était arrivé, donc il y avait une somme d'argent.
Football français ou Qatar ?
Alors, non, mais justement,
vas-y.
Il y a eu le Qatar avec effectivement le Paris Saint-Germain, mais par exemple, en France, il y a des clubs comme ça qui, d'un coup, facilement pouvaient mettre des 8, 10, 15, 20, 30, 40. Cette année, Saint-Étienne, alors, qui met 10 millions sur Stassin. Il y a eu des sommes, tout d'un coup, il y a eu une libéralisation des esprits comme ça, des portefeuilles. Quand de l'autre côté, d'ailleurs, on dit souvent, et les clubs disent, mais on gagne pas assez d'argent avec les droits télé, etc. Mais en revanche, ils continuent de dépenser des sommes assez dingues. En France, notamment, ça a totalement changé. Alors, je parle même pas de l'Angleterre, qui là est passé dans une autre dimension, dans une autre galaxie.
Les clubs anglais en 2024.
Mais ne serait-ce qu'en France, c'est assez dingue.
Ce qui est normal.
Et ce sont aussi eux qui ont le plus reçu. Donc, finalement, il y a un certain équilibre. Non, mais sans faire le. C'était mieux avant, mais effectivement, c'est un peu le genre de Naïmonial, le genre de chiffre qui, quelque part, donne une indication assez simple sur les maux du football que, par ailleurs, Les dirigeants pointent un désintérêt des jeunes générations, des problèmes en termes d'image par rapport à d'autres sports. Il y a eu une polémique il n'y a pas si longtemps en France par rapport au rugby. C'est assez clair.
Le vrai mal du foot aujourd'hui, c'est que si vous n'avez pas un chiffre comme ça, qui est évidemment très excessif, vous avez combien de championnats qui meurent ? Aujourd'hui, s'il n'y a pas autant d'argent dans le football, le foot français n'existe plus, c'est un championnat qui vend. Aujourd'hui, si le Brésil n'envoie pas plus de 1000 joueurs à l'étranger, est-ce que le Brésil existe encore dans le championnat brésilien ? Est-ce qu'il existe encore dans 2 ans, 3 ans ? Vous avez combien de championnats aujourd'hui de clubs qui dépendent d'une surenchère économique pour continuer d'exister ?
Non, mais quand Lyon ou Marseille jouent autant à Football Manager avec des mouvements incessants, c'est pas juste une histoire de survie économique.
Non, c'est pas une histoire de survie économique, c'est un problème de mauvaise gestion. Ça contribue, hein, vous me direz. Lyon et Marseille sont des clubs qui changent d'effectifs et d'entraîneurs 2 ou 3 fois par an. D'accord, mais moi je parle globalement, puisque le chiffre que vous donnez concerne tout le monde en fait. C'est pas uniquement.
Oui, les transferts internationaux. Voilà. Donc on n'est pas sur un pays.
L'Angleterre, c'est pas uniquement les deux Manchester qui dépensent. On en a parlé il y a quelques semaines. Bournemouth, normalement, ça joue le maintien. Ils mettent 100 millions par mercato. Nottingham Forest, ils étaient promus.
Mais ils en rentrent.
Millions.
Ils en rentrent de l'argent. Ouais, nous, on n'a pas d'argent. Et on dépense. C'est ça qui me dérange.
Ils en dépensent plus qu'ils en rentrent. Le Brésil a exporté plus de 1000 joueurs sur l'année. Mais aujourd'hui, si vous n'avez pas ça, le championnat brésilien, il disparaît. Il est déjà plus très haut. Donc, en gros, le problème, c'est que si c'était une dépense absolument pharaonique et que c'était, entre guillemets, une dépense pour rien parce que les clubs allaient bien, le problème, c'est que si vous avez ne serait-ce que 2 milliards de moins de dépensés, vous avez combien de clubs qui s'écroulent, combien de championnats qui s'écroulent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le mal est devenu le remède. C'est ça le problème, Hugo. C'est ça qui est terrible dans cette histoire.
Et juste, vous disiez le Brésil, mais même en Europe, je prends un exemple, le championnat portugais.
Le championnat portugais qui.
Le Brésil, parce que c'est monstrueux.
Mais bien sûr. Ça veut bien vendre. Le Portugal en plus.
Mais c'est ça, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ils commencent à dépenser des sommes importantes. Porto ne faisait pas autant de dépenser des sommes importantes au Brésil, justement. Maintenant, ils sont obligés de le faire pour attirer des joueurs et les revendre après.
Une autre donnée dans ce rapport, donc Global Transfer Report de la FIFA, ça sent l'amour du jeu. Le football féminin, lui, en est à 2284 transferts. C'est une grande augmentation par rapport à 2023. En 2024, et un peu plus de 15 millions de dollars. Alors, les chiffres sont loin du football masculin, plus du double du montant de 2023. Alors, en valeur absolue, là, ce sont des chiffres plutôt faibles, Saïm Bongeli, et c'est une progression par rapport à 2023. Est-ce que là, paradoxalement, parce qu'en plus, on n'est pas dans des volumes très, très élevés d'un point de vue global, est-ce que ce n'est pas plutôt encourageant là, pour le football féminin ? Est-ce que ça ne montre pas une certaine professionnalisation, un certain développement ?
Alors, vu comme ça...
Je me fais peut-être un peu l'avocat du diable.
Vendu comme ça, voilà. vous avez trouvé le très bon argument, effectivement. C'est vrai que...
Bon, j'ai un peu repris ceux de la FIFA, on ne va pas se mentir. Le football féminin poursuit son développement. Alors, le problème, c'est que... La Fédération internationale.
Alors, j'ai envie de dire oui et non malgré tout, parce que cette professionnalisation et ces transferts concerne certains clubs. Oui. En Angleterre, vous avez les gros. Chelsea vient de débourser 1 million de livres sterling. C'est un record, hein, typiquement, qui a été déboursé par le club pour s'attacher les services d'une joueuse. En Angleterre, vous avez quelques gros clubs. Chelsea, City, Arsenal qui arrivent à le faire. En France, vous le savez, Paris Saint-Germain et Lyon qui arrivent à le faire. Les autres clubs ne dépensent pas et ne peuvent pas se permettre de dépenser
quand
autant.
Quand on parle de développer, on développe quoi ? On développe le championnat anglais, le championnat espagnol, c'est-à-dire que Chelsea et Barcelone vont se renforcer encore plus pour être plus ou moins finalistes de la prochaine Ligue des Champions. Mais est-ce qu'on a développé le championnat tchèque ? Est-ce qu'on a développé le championnat belge, polonais ? Est-ce que vous allez voir des équipes autrichiennes venir quart de finale, demi-finaliste de Ligue des Champions ?
Parce que...
C'est un développement qui est très 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 injuste
chez les
comme
hommes.
Comme d'habitude,
mais c'est pour oui,
les mêmes, c'est pour toujours.
Ouais. Parce que pareil, c'est du mimétisme. Hein.
Là où dans le foot masculin, on peut aller acheter des joueurs tchèques, polonais, que sais-je, pour quelques millions potentiellement des potentiels. En foot féminin, vous n'aurez pas ça. Vous aurez à peine la joueuse vient ou quelques milliers d'euros et basta. Donc effectivement, le foot féminin en Europe de l'Est, en Afrique, que sais-je, va pas se développer comme ça.
Bon, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même le genre de discussion qui nous redonne du beau mot au cœur, hein, qui nous donne envie d'être optimiste pour l'avenir du football. Alors, Marc Libra, rassurez-vous, vous n'êtes sûrement pas un morceau de viande en ce qui nous concerne.
C'est romantique.
Mais on sent que ça sort du cœur et c'est votre ressenti d'ancien footballeur.
J'ai arrêté en 2005, il n'y a plus rien, tout est fini, ça n'a plus rien à voir. Tout est différent, les maillots, les terrains, les pelouses, tout.
Maintenant, la façon de travailler.
Nous, on avait 4 maillots par an, vous imaginez ? Ma mère, elle me l'aura piécé à la maison. Vous imaginez ?
Vous êtes trompé d'époque, hein. Votre portefeuille aussi.
Non, j'ai vécu une très belle époque, justement. Et vous le savez, écoutez, des fois, on n'avait qu'une belle époque.
On encourage les moins de 20 ans, voire les moins de 30 ans, à se pencher sur votre époque.
Doucement, je suis jeune.
Merci Marc Libra, merci Selim Bonghali, merci Naïm Moniol, merci Pierre-Olivier Guérin et merci bien sûr à Laurent Salerno, le maestro à la réalisation. Demain, le retour d'Annie Gasnier, l'atelier, et une excellente soirée à l'écoute de RFI.